Sourien est une émission entièrement consacrée à explorer le monde de F. Merjanov.
Une personne dont nous ne savons presque rien. Ou presque.
Si nous ne savons rien de son genre, nous pouvons affirmer son appartenance aux hominines.
C'est-à-dire à la vaste famille qui va de Lucie, l'Australopithèque, à Conan le barbare, en passant par Néandertal. L'humanité actuelle est ce qu'il en reste.
Dans cette émission, nous employons le terme hominine pour parler des êtres humains. Quel que soit leur genre ou leur sexe, il nous permet de contourner les contraintes grammaticales sur le masculin et le féminin. Nous précisons seulement lorsque cela est nécessaire.
L'unique source sur F. Merdianov est son ouvrage intitulé « Analecte des riens », un recueil des citations autour du mot « rien » paru en 2017.
Dedans, une courte biographie. Une vie réduite à quelques lignes, des lieux, Nice et la mer Noire, une date, 1970.
Et aussi quelques mots essentiels. Macédoine, nihilisme, apiculture et rien.
Mais rien de plus. L'absence d'informations plus précises ouvre un immense champ de recherche. Toutes les pistes peuvent être explorées.
Pour dénicher tous les petits riens de la vie de F. Merdianov, il faut utiliser une méthode particulière appelée protivophilie.
De protivo, contre, et de fili, pour.
Cette méthode est simple.
Pour partir à la recherche de F. Merdianov,
il faut se jeter dans la vie de personnes inconnues, aller à la découverte d'îles désertes.
Se perdre dans les foules, ou voyager dans le temps.
Il faut gratter les vernis pour voir ce qui se cache derrière.
Le risque est grand car, comme le dit la maxime, les êtres les plus intéressants sont ceux dont nous ne savons rien et dont personne ne saura jamais rien. Mais rien n'arrête la protivophilie.
Elle tisse des liens entre F. Merdianov et sa réalité avec une bonne dose de capillotraction, l'art de tirer par les cheveux.
Tous les mois, l'émission Tout sur Rien propose des biographies d'hominines inconnues ou des démystifications d'idoles, des explorations géographiques insolites ou des réalités sociales singulières.
Elle se nourrit de toute l'absurdité du monde pour mieux le vomir.
Elle réhabilite des hominines qui comptent pour rien dans l'histoire avec un grand H.
Tout sur Rien s'attarde sur les moins que rien et exalte les bons à rien.
Un grand pas en direction de F. Merdianov.
Elle reprend à son compte ces mots d'un célèbre écrivain inconnu.
Dans nos familles, on boit dans des verres à moutarde. Nous ne sommes pas des aristocrates. Nous manquons d'élégance et notre race est incertaine. Mais nous n'oublions rien.
Fanny. Dégâts collatéraux.
Usage. Dans la langue populaire française, l'usage des expressions « être Fanny », « faire Fanny » ou « embrasser Fanny » sont similaires. Elles s'emploient dans un contexte ludique, lorsque l'une des personnes ou des équipes n'obtient aucun point au jeu auquel il, elle, participe. Zéro. Rien. Cela vaut pour les jeux de boules, les cartes, le baby-foot, le ping-pong et quelques autres encore. Généralement, cela se conclut par un gage imposé qui varie selon les traditions, les régions et les époques, ou selon des règles éphémères établies entre des hominines qui jouent ensemble. Cela va de la simple tournée au bar offerte à celles ayant gagné, jusqu'à des rituels ridiculisant celles ayant perdu. L'humiliation reste symbolique. Les pleurs sont provoqués par le score nul et non par la dureté du châtiment. Le gage est accompli en public et l'annonce de ce fanny est clamée haut et fort. Les rires des anonymes et les taquineries des proches sont une manière de marquer l'événement, sans volonté réelle de blesser ou de dénigrer. Les hominines adorent ritualiser leurs comportements sociaux. Celui-ci est loin d'être le plus ridicule. Rien ne ressemble plus au mot Fanny que le prénom Fanny. Il est le diminutif de Française en anglais et de Françoise en français. Parfois celui de Stéphanie. Il est devenu un prénom à part entière, mais dans le calendrier chrétien, il est fêté le 9 mars avec les Françoises et les Frances, ou le 26 décembre lorsqu'il est basé sur Stéphanie. Dans le sud de la France, on trouve des fanettes ou des fannies avec un i, mais c'est une fanny avec un y que mettra en scène Marcel Pagnol pour sa pièce de théâtre éponyme, jouée en 1931. Fanny et ses dérivés sont utilisés pour des hominines femelles. Il est aussi le prénom de Fanny Kaplan, qui tenta d'assassiner Lénine, et, hypothétiquement, celui de F. Merjanov.
Je maudis les opportunistes à grands coups de triche, se fichent des dommages collatéraux collards à tiche. Je maudis les riches chiches, les pastichèmes, les pâtes au sel, les pâtes au sel. J'aime nos blêmes, j'aime histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un con, c'est un cas, je le confesse. Histoire de, histoire de, histoire de fesses. C'est un cas, c'est un con, je le confesse.
Si en français le mot Fanny semble n'être qu'un prénom, en anglais il est aussi un nom commun qui désigne la vulve, en anglais états-unien il nomme aussi les fesses. Les étymologistes divergent sur les origines de ces emplois. Une des possibilités serait le lien entre le sens sexuel de Fanny et le roman érotique de John Cleland, publié au milieu du XVIIIe siècle, Mémoire de Fanny Hill, femme de plaisir. Sous forme de lettres, Fanny Hill, elle-même prostituée pour survivre à Londres, raconte dans le détail ses mœurs et ses pratiques avec sa clientèle. Celui-ci est rapidement interdit, pour obscénité, par les autorités britanniques puis américaines. Malgré l'interdiction, le livre circule clandestinement. Alors que la plupart des versions qui circulent sont tronquées, une traduction du texte original est publiée en France en 1914 sous les auspices du poète Guillaume Apollinaire. Il restera interdit jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'argot anglais utilise naff, le verlan de Fanny, pour désigner les parties génitales externes des hominines femelles, qui signifie aussi rien, nothing. Si ce sens n'est pas issu de Fanny, ça peut être l'abréviation de nothing, comme en français, avec que dalle, qui signifie rien, et peut se dire simplement cud. Mais nous digressons.
Illusion. Le folklore et l'histoire des jeux de boules proposent une version de Fanny. En 1852, la petite ville de la Croix-Rousse est rattachée à la ville de Lyon, dont elle devient un arrondissement. Située sur l'une des collines de Lyon, la Croix-Rousse est un quartier où les ateliers de tissage de soie sont très nombreux dans la première moitié du 19e. Entre 1831 et 1834, elle est le lieu central des révoltes des Canuts, soit des artisans tisserands. Leurs revendications concernent autant l'amélioration des conditions de travail et de revenus que le refus de la mécanisation qui menace leur profession. Les affrontements avec les forces armées font plusieurs centaines de morts et de blessés de part et d'autre. Les insurrections des Voraces, en 1848 et 1849, sont les derniers sursauts de la contestation politique des Canuts. La tension sociale retombe dans les décennies suivantes.
Chantez Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, grande l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Pour gouverner, il faut avoir manteaux ou rubans en sautoir. Nous en tissons pour vous, grands de la terre, et nous, pauvres canuts, sans drap, on nous enterre. C'est nous les canuts, nous sommes tous nus. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Mais notre règne arrivera quand votre règne finira. Nous tisserons le linceul du vieux monde, car on entend déjà la tempête qui gronde. C'est nous les canuts, nous sommes tous nés.
Les contestations dans les ateliers ont fait place au paternalisme patronal qui inspirera la remarque suivante à Jules Vallès, sociologue de la famille, lors d'un court passage à la Croix-Rousse en 1866.
Rien à faire, ça pue la famille.
L'inauguration en 1862 d'un funiculaire surnommé La Ficelle, qui réunit les bas des pentes au plateau de la Croix-Rousse, et l'année suivante celle de la gare de la ligne de chemin de fer qui dessert le plateau entre le Rhône et la Saône, marque l'intégration urbanistique de la Croix-Rousse à Lyon. C'est dans ce contexte politique que s'officialise la boule lyonnaise. La société sportive du Clos Jouve est créée en 1850. Ancienne propriété d'une congrégation religieuse, le Clos Jouve appartient au ministère de la Guerre, qui y fait parfois des exercices militaires pour entraîner ses soldats. Une partie de l'espace est occupée par les boulodromes qui s'installent régulièrement. Comme tous les jeux de ce type, la boule lyonnaise consiste à jeter des boules en direction d'une boule plus petite et de s'en rapprocher le plus possible. Apparue dans le courant du XVIIIe siècle, elle est une variante des très nombreuses pratiques de boules qui existent dans différentes régions d'Europe. La spécificité lyonnaise tient dans la dimension des boules et leur poids. Plus grosses et plus lourdes que dans la pétanque, qui nécessite de faire quelques pas d'élan pour les lancer sur un terrain deux fois plus long que pour la pétanque. Cette dernière, la pétanque, est l'adaptation du jeu provençal pour les hominines à mobilité réduite. La longueur du boulodrome est divisée de moitié, plus besoin de faire des sauts avant de jeter la boule, elle se joue à pied planté, pétanca, en provençal. Les trois se jouent sur un sol naturel avec des boules rondes. Il existe des jeux de boules sur herbe, sur sable et sur bitume. Certains avec des boules en bois ou en métal, d'autres avec des boules ovales ou carrées. Même s'il n'est pas le seul à Lyon, le Clos Jouve devient le principal lieu de rencontre pour les adeptes de la boule lyonnaise. En France et en Angleterre, les jeux de boules et de balles sont régulièrement interdits depuis le XIVe siècle par les autorités politiques et moralement condamnés par les religieux. Certains jeux sont néanmoins pratiqués par les hominines appartenant à la noblesse ou alors dans les petits souliers de la royauté, le bilboquet par exemple. Les interdictions sont levées en France en 1789 après le renversement de la royauté et l'abolition formelle des privilèges, et seulement en 1845 sur l'île britannique. Dans les faits, ces interdictions n'ont pas empêché la pratique du jeu de boules au fil des siècles. La France dénombre plusieurs dizaines de variantes de jeux de boules, dont presque une vingtaine en Bretagne. La plupart ont été inscrits à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France dans les années 2000. Les différences entre ces jeux de boules sont du domaine des règles, de la dimension du terrain et des boules. Tout est dans la nuance. Il y a autant de différences entre les boules lyonnaises et les parisiennes qu'entre la salade niçoise et la salade chopska.
« de quoi je mesure.
Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Pardon, c'est pas une plaisanterie, c'est une partie de boule.
Aïe, aïe, aïe. C'est mon pauvre panier.
Il est à moi. Alors, je tire. C'est que je suis pressé, moi.
Silence.
Vous voyez pas que vous risquez de troubler le tireur?
Ok, cocu, mon ami.
Selon les inventeurs du mythe bouliste, appelé aussi mythologue, Fanny Dubriand se passionne pour la boule lyonnaise. Elle assiste en spectatrice aux parties qui s'enchaînent sur le clos Jouve. Le boulodrome est alors un endroit exclusivement masculin et le jeu n'est pas ouvert aux hominines femelles. Comme le misogyne et bourgeois Claire Tisseur le rappelle dans Les vieilleries lyonnaises, ce sont les structures sociales et les ségrégations de genre qui font l'univers bouliste en cette fin de 19e siècle.
Le jeu de boule est le jeu des boulangers retirés, des pâtissiers, des notaires, c'est-à-dire de tout ce qui constitue la partie sérieuse et solide de la société. Celui-là seul peut vraiment comprendre le jeu de boule, qui a l'âme pure, qui n'a point connu les passions où on est revenu, qui a le cœur simple. Jusque-là même qu'à la campagne, les dames, souvent, ne dédaignent point de prendre part à ce modeste amusement. Leur aimable gaucherie, leur faiblesse, leur charmante maladresse à lancer la boule, qu'elles sont obligées de tenir en dessus de leurs petites mains délicates, au lieu de la happer solidement comme les hommes, dans la main renversée, donne une grâce, une fraîcheur, que l'on n'eût point soupçonné à ce jeu prosaïque. À la fin de la partie, leurs bras retombent comme lacés, leurs cheveux sont légèrement dénoués sur le cou, leur front est un peu rose de fatigue, et, si c'est l'été, quelquefois, il y brille comme une perle de tiède rosée.
Les parents de Fanny Dubriand tiennent l'herboristerie près de la mairie du 4e arrondissement, pas très loin de la station du funiculaire. Elle a environ 20 ans dans les années 1860. Selon ses biographes, Fanny Dubriand est considérée comme une simple d'esprit, sale et mal habillée. Elle dort souvent dans la rue et traîne près du clos Jouve. Lorsque des hominines perdent une partie sur le score de 13-0, il est instauré un gage consistant à aller voir la Fanny. Le rituel est simple. En échange d'une pièce de monnaie, Fanny accepte de soulever ses jupes pour montrer ses fesses. L'acte n'a aucune connotation sexuelle, mais se veut humiliant, car la beauté et la propreté de Fanny ne sont pas du goût des boulistes. Il existe plusieurs variantes dans les descriptifs des rituels. Cela ressemble à une grosse blague potache. Les hominines mâles ont depuis longtemps développé un humour bien à eux. Pour faire une comparaison moderne, c'est un peu comme demander à la vieille clocharde avinée du coin de la rue de montrer ses fesses contre une cigarette. Que de franches rigolades pour celles qui aiment s'amuser en faisant de la merde. Et cela bien avant le premier cas de hooliganisme constaté dans le jeu de boules. En 1868, Fanny Dubriand est arrêtée par la police pour son errance et son exhibitionnisme. Solidaire, les boulistes expliquent que c'est eux qui lui demandent et non elle qui se montre dans la rue. Elle est finalement relâchée, sans aucune charge contre elle. Sa rencontre avec un hominine porté sur la boisson va déboucher environ 9 mois plus tard sur la naissance d'un enfant. Seule et trop pauvre pour subvenir aux besoins de sa progéniture, elle la place à l'assistance publique. Par la suite, Fanny Dubriand est hospitalisée dans un asile où elle meurt rapidement. Touchée par le sort de leur Fanny et l'absence de candidate à son remplacement, les boulistes décident de mettre en place un nouveau gage pour lui rendre hommage, à leur manière. Dorénavant, il faut embrasser une photo de fesses, présentée comme celle de Fanny. Les poètes croix-roussiens font rimer la boule avec le boule. Il est présent dans des jeux aussi éloignés géographiquement que la pétanque méridionale et la boule de fort angevine. Mais c'est le succès de la boule lyonnaise et son influence sur les autres jeux de boules contemporains qui aident à la diffusion du rituel de Fanny. Par exemple, le pataphysicien Alfred Jarry fait commencer son roman « La Dragonne », écrit en 1904, par une scène de Fanny inspiré de son court passage dans la petite ville de Le Grand-Lamps, en Isère, à environ 80 km de Lyon. Le jeu provençal et la pétanque ont conservé cette tradition. Chaque nouvelle société de boules, lyonnaise, provençale ou piétanquée, se fait fabriquer sa propre fanny. Un petit tableau en relief représentant une paire de fesses, sans tronc ni jambes. Il est une relique pour chaque club. Rangée précieusement dans un coffre, elle est sortie uniquement lors d'une défaite à 0 point. Il faut alors embrasser Fanny. Un petit tapis est parfois prévu afin de protéger les genoux de ceux qui viennent de perdre et une clochette annonce publiquement une telle défaite. Si les aspects humiliants du rituel de la Fanny peuvent sembler assez relatifs, il faut se replacer dans le contexte social de son apparition pour en mesurer ses véritables enjeux.
Ce joueur a perdu 13-0 sa partie. Il baise les fesses de la jeune fille et assume.
Tout qui n'a pas baisé Fanny, celui qui a joué au boule toute sa vie. Il n'y en a point. Alors c'est des menteurs.
Mon père me disait, il n'y a pas très longtemps, moi j'ai jamais baisé Fanny de ma vie. Alors il me disait, mais quand je sentais que ça sentait mauvais et que j'étais mené 12-0, je ramassais le bouchon et je le jetais dans les arbres. J'avais abandonné, l'honneur était sauf.
Les premiers boulistes de la Croix-Rousse sont principalement des petits artisans, des manœuvres, des commerçants et des notables. Par la suite, le jeu se répand aussi parmi le petit peuple et les boulodromes deviennent un espace de mixité sociale dans tous les différents jeux de boules qui se développent en France à partir du début du XXe siècle. Il est toujours plus facile d'accepter de se prêter au rituel de la Fanny dans un cadre privé, amical ou familial, que de le faire en public pour ceux qui bénéficient d'un statut social privilégié. Si l'oncle ou le voisin peuvent se le permettre, monsieur le maire, le pharmacien ou le gendarme peuvent-ils accepter l'humiliation sans mettre en péril le sérieux de leurs fonctions? Peuvent-ils ainsi se ridiculiser? L'équipe ouvrière peut-elle vraiment se mettre à genoux devant celle des petits chefs? La littérature sur les jeux de boules regorge d'anecdotes sur celles ayant refusé de s'y plier, préférant même arrêter les boules plutôt que d'accepter d'embrasser Fanny. Soit pour des raisons de prestige social, soit par simple fierté personnelle démesurée.
Talentueux mais tu seras jamais dans ma poule. Sur le plus haut trône du monde, on n'est jamais assis que sur son boule.
Pour les folkloristes, l'histoire bouliste de Fanny alimente des poèmes, des chansons ou des textes, parfois en parler lyonnais. Pour les illustrateurs, les peintres et les photographes, c'est son boule qui fascine. L'imagerie est de plus en plus polissonne. Les illustrations et les cartes postales montrent une jeune nominine femelle, jupe retroussée, exhibant des fesses rebondies avec le sourire. Il ne reste rien de la simple d'esprit, sale et mal habillée, place dorénavant à la pin-up modelée par les critères esthétiques et les modes successives. La relique de Fanny est dans les premières décennies faite à la demande, par chaque société bouliste, auprès d'artisans, avant de devenir progressivement, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, un objet issu de l'industrie, et tendant donc à s'uniformiser.
Chut, oui, c'est la tradition, il me semble que nous devrions la respecter.
À ces mots, deux jeunes gens entrèrent en courant dans la salle du cercle et en rapportèrent, au milieu de l'allégresse générale, un tableau d'1 mètre carré, qu'ils tenaient chacun par un bout. Les trois perdants s'avancèrent avec des rires confus, tandis que la foule applaudissait. Je m'étais glissé jusqu'au premier rang et je vis avec stupeur que ce tableau représentait un derrière, rien d'autre, ni jambes, ni dos, ni mains. Rien qu'un gros derrière anonyme, un vrai derrière pour s'asseoir, que le peintre avait cru embellir d'une rose qui me parut artificielle.
Sans que l'on sache comment, cette expression de Fanny s'est étendue à d'autres jeux. Non pas le rituel d'embrasser de fausses fesses, mais celui d'un gage, pour une partie perdue avec 0 point marqué. Être Fanny. Seuls les jeux de boules persistent dans leur mise en scène de l'embrassade. À tort, la Fanny est bien souvent assimilée à la seule pétanque, devenu depuis son invention en 1907 le sport de boules le plus pratiqué en France, et à la France méridionale. Cette confusion est peut-être due à la pièce Fanny de Marcel Pagnol et au succès de son adaptation cinématographique en 1932. La partie de boules dans les rues de Marseille n'est pas de la pétanque, mais du jeu provençal. Trois pas sont nécessaires avant de lancer. Dans Le Temps des Amours, quatrième tome de ses souvenirs de jeunesse, Marcel Pagnol raconte une partie de ce jeu qui se finit sur une Fanny. La confusion vient peut-être aussi du score de 0 à 13, chiffre qui rappelle le département des Bouches-du-Rhône et sa capitale Marseille. Malgré cela, les expressions avec Fanny se sont étendues à la belote, au baby-foot, au ping-pong et au bowling, pour ne citer que quelques exemples. En 1987, une artiste installe à Lyon une œuvre dédiée à Fanny Dubriand, dans une zone piétonne aménagée, seul vestige de l'ancien clos Jouve. Elle est constituée d'un fessier joufflu et sans corps, exhibé sous une jupe de bronze en forme de rose, dont il forme le cœur, posé sur un piédestal et enfermé dans une grande boule. En hommage à toutes les femmes culottées de l'histoire, les pétales de la rose sont parcourus de prénoms. Les inscriptions « Fanny 20 ans »,« Fanny 100 ans »,« Courage »,« Amour »,« Bonheur »,« Colère »,« Audace »,« Pensée »,« Mémoire » forment les parois de la sphère et cache partiellement les fesses de la vue de celle qui passe devant. Pour embrasser Fanny, il faut maintenant avoir la clé.
Avec moi, y a pas de malaise. Un seul but, pour moi c'est le 13. Sur le sable ou bien la terre. Avec mes boules, je suis à l'aise. Si t'as pas peur de perdre ton pèse, sors tes boules et amène ta fraise.
Donne ton bassiste, mets les glaçons. Viens vite lancer le cochon.
De la cagne jusqu'à Paris. Très abéro, c'est la Fanny. Avec moi, faut que ça déménage. Quand je tire, c'est un récamage. Sur la terre ou bien sur la plage. Avec mes boules, pas de ratage. Si une des tiennes me fait du barrage, je la tire et je la bégale.
Donne ton bassiste, mets les garçons. Viens y lancer le cochon.
De la cagne jusqu'à Paris.
Très d'abéro, c'est la Fanny.
Ma pas chère, c'est pas les Américains qui ont inventé ce jeu, ni les Chinois. D'abord c'est pas un jeu, c'est un sport. Un art de vivre. C'est la Fanny. C'est la Fanny, c'est la Fanny, la Fanny. Bon seigneur.
Donne ton bassiste, mets les garçons. Viens y lancer le cochon.
De la cagne jusqu'à Paris.
Très d'abéro, c'est la Fanny. Donne ton bassiste, mets les garçons. Viens y lancer le cochon.
De la cagne jusqu'à Paris.
Très d'abéro, c'est la Fanny. Donne ton bassiste, mets les garçons. Viens y lancer le cochon.
De la cagne jusqu'à Paris. Très d'abéro, c'est la
Fanny. Réalité.
Adieu, ta réponse est à craindre. Je n'ai pas le temps d'écouter. Mais quand je n'ose m'arrêter, n'est-ce donc que toi qu'il faut plaindre? Ce que j'ai dit, retiens-le bien. Pour aujourd'hui, je n'ai plus rien.
Le folklore populaire, ce n'est pas que des contes peuplés d'êtres imaginaires pour effrayer les enfants ou les amuser. Il raconte aussi des pans de la réalité, déformés par les modes de transmission d'histoires réelles dominines. Il n'existe aucune Fanny Dubriand. dans l'ensemble des archives de la ville de Lyon de la seconde moitié du XIXe siècle. Ce que l'équipe de Tout sur Rien a trouvé, par contre, c'est une Françoise de Brion, qui apparaît dans plusieurs registres. L'orthographe de son patronyme est changeante selon les documents consultés. On retrouve aussi De Brion, orthographié comme quelque chose qui brille, ou Dany Brion, ou alors Du Brion, ainsi que De Brion, plutôt orthographié comme Brion Adams. Brian Adams. Bref, elle est née le 11 août 1834 à Lyon. Son père, Claude de Brion, et sa mère, Françoise Perrault, ont alors presque 40 ans. La famille compte déjà 7 enfants, 2 femelles et 5 mâles, dont les naissances s'étalent entre 1817 et 1832. Deux autres encore naîtront après elle en 1837 et 1838. Les registres d'état civil mentionnent dès le XVIIe siècle la présence de la famille Perrault, branche maternelle de Fanny, à Lyon, ou plus exactement dans les quartiers de la Guillotière et celui de la Croix-Rousse, les deux étant plus ou moins des villes séparées de Lyon à l'époque. Quant à la famille de Brion, la branche paternelle de Fanny, elle est repérée aussi à la Guillotière. L'une comme l'autre, les deux branches de Fanny, sont des familles où on abandonne ses enfants faute de moyens, où les pères meurent faute au travail ou à la guerre, et où les femmes survivent. La famille de Brion navigue entre Guillotière, Presqu'île et Croix-Rousse au fil des naissances de leurs 9 enfants. Au recensement de 1851, la famille loue un logement et un local commercial à la Croix-Rousse. Il est indiqué que le couple vit avec Fanny et l'une de ses jeunes sœurs. Dans la case prévue à cet effet, il est précisé que Françoise Fanny, alors âgée de 16 ans, a un goitre et est considérée comme idiote. Dans la case métier, il est sous-entendu qu'elle est à la charge de ses parents. Le 3 octobre 1859, à l'hôpital de la Charité, Fanny donne effectivement naissance à un enfant, Marie. L'acte ne précise pas le nom du père. Les boulistes évoquent un ivrogne ou un militaire, voire les deux, ce qui n'est pas incompatible. L'enfant est placé dans une crèche. Fanny sort de l'hôpital une semaine après l'accouchement. Marie semble être prise en charge par l'assistance publique, comme l'affirme la tradition bouliste. Elle n'apparaît pas dans le recensement de 1861 avec sa mère, et selon son acte de mariage, il est indiqué qu'elle est la fille, non reconnue, de Françoise de Brion. Voilà donc la réelle histoire précise de Fanny, Françoise, égérie des terrains de jeu divers et variés. C'est une histoire retrouvée, à la fois émouvante et si tristement banale.
Cette ville, tu es déjà venue, Fanny, Fanny,
Fanny, Fanny.
Tu reconnais les jardins et les rues, oh Fanny, Fanny,
Fanny, Fanny.
Rien n'est su sur les circonstances de la procréation. Dans quelle mesure sont-elles consenties par Fanny de Brion, dont les facultés mentales sont sans doute perturbées? En effet, selon les définitions médicales du XIXe siècle, elle est atteinte de crétinisme. La médecine en Europe parvient à comprendre que les carences en iode dans l'alimentation créent des dysfonctionnements de la thyroïde et des malformations. Parfois accompagnées de cas de nanisme disharmonieux. Très souvent, le crétinisme se concrétise par un goitre, c'est-à-dire une hypertrophie au niveau du cou, là où se situe la glande thyroïdienne. Il peut être très volumineux. Outre des malformations ou des retards de croissance, les dérèglements biologiques peuvent provoquer une arriération mentale intellectuelle. L'histoire bouliste et le qualificatif idiote de l'administration laissent à penser que Fanny de Brion est dans ce cas. Le crétinisme passionne. Des villages isolés des Alpes et des Pyrénées sont étudiés car ils présentent des taux très élevés de crétinisme dans leur population. Les crétins des Alpes entrent dans l'histoire. Le terme est alors médical et non injurieux. Photographies et études se multiplient.
un rapport ministériel de 1873 indique que le département du Rhône abrite 5000 crétins mâles et 14000 femelles de plus de 20 ans, soit 4,6% de la population totale. Le Rhône est classé parmi les départements particulièrement concernés. Dans les régions montagneuses où l'absence d'iode est patente et où la consanguinité n'est pas une exception, 10 départements sont les plus touchés, avec des pourcentages de 5% pour les Alpes-Maritimes jusqu'à 13% en Savoie. Les avis divergent sur le sort à réserver à celles souffrant de crétinisme. Pour ces populations villageoises, la solution prônée est l'apport d'iode dans leur alimentation par la consommation de produits marins. Le crétinisme disparaîtra ainsi au fil des générations. Un tel apport fait diminuer les goitres, parfois jusqu'à les résorber, lorsque cela est fait chez les hominines les plus jeunes. Pour les populations urbaines, le crétinisme est médicalisé. Les spécialistes qui pensent qu'il est possible d'en soigner les aspects psychologiques préconisent l'internement dans des asiles et des thérapies, parfois de choc. Avant d'être internée, Fanny Debriand est en capacité de vivre dans sa famille pendant des décennies et d'interagir avec son environnement, tels que les boulistes du Clos Jouve. Et son arrestation en 1868 confirme qu'elle peut se faire comprendre. Aucune information sur son type de crétinisme et son degré de troubles mentaux n'est disponible. Nulle indication dans les archives sur la raison de son crétinisme. Est-il congénital ou lié à des carences en iode pendant la grossesse de sa mère? Sa proche parentèle ne semble pas atteinte. Françoise Fanny Debriand apparaît en filigrane dans le rapport sanitaire de 1866, dont elle est l'une des protagonistes.
On voit que le chiffre des crétins et idiots prédomine chez les hommes, que le gloître est beaucoup plus fréquent chez les femmes. C'est dans le 4e arrondissement que l'affection goitreuse se montre le plus fréquemment. C'est aussi sur le versant sud de la montagne de la Croix-Rousse et sur quelques points du plateau que l'on rencontre les plus grandes causes d'insalubrité en ce qui regarde les habitations et l'agglomération des individus dans des locaux trop restreints. L'alimentation elle-même laisse à désirer, soit à cause de la pauvreté des habitants, soit à cause du mauvais emploi de leurs ressources.
Devenu herboriste, Claude Debriand meurt le 6 février 1866. Âgée de 70 ans, Françoise Debriand se retrouve seule à faire fonctionner l'herboristerie et à s'occuper de sa fille Françoise Fanny, qui vit toujours avec elle. L'annuaire de 1869 précise que l'herboristerie du 2 rue du Villard est tenue par Madame Debriand. Les archives ne permettent pas de dire quel fut l'impact sur le reste de la famille Debriand des soulèvements populaires en 1870 et 1871. Fanny est admise volontairement à l'asile de l'Anticaille le 20 juillet 1871, quelques mois avant la mort de sa mère Françoise Debriand, le 24 octobre. Son frère Anel, qui meurt en 1875 au dépôt de mendicité d'Albigny-sur-Saône, au nord de Lyon, n'est sans doute pas en mesure de l'aider. Rien n'est connu sur les relations qu'elle entretient avec le reste de son Adelphie ou avec sa fille Marie. Fanny Debriand est ensuite transférée au nouvel asile de Bron le 25 novembre 1876. Décidée en 1868, la construction de cet asile public d'aliénés prévoit de fournir, sur un espace vert de 34 hectares à 4 km de Lyon, 1000 places pour accueillir au quotidien des hominines en souffrance psychologique ou malades, ainsi que celles chargées de les soigner ou de les enfermer. Des dortoirs, des ateliers, des fermes et des lieux de vie sont érigés dans un environnement de verdure, une bibliothèque et des bains. En 1875, 150 aliénés sont utilisés pour faire les travaux de terrassement. Faute de crédit suffisant, seulement un peu plus de 600 places sont effectivement disponibles. Les malades sont répartis selon leur genre, mâle ou femelle, dans des bâtiments identiques de part et d'autre d'une allée centrale, puis selon différentes catégories établies par les aliénistes, les tranquilles, les semi-tranquilles, les faibles et vieillards, les agitables et les convalescents. Quelques places aussi pour les épileptiques. Un bâtiment pour chaque catégorie, avec dortoir et cellules d'isolement. Avant cet asile, la prise en charge des troubles psychologiques se fait à l'hôpital de l'Anticaille, située dans un ancien couvent du 5e arrondissement de Lyon. Celui-ci est surchargé et mal adapté aux nouvelles approches psychiatriques. En 1876, le déplacement de l'ensemble des malades de l'Anticaille vers l'asile public d'aliénés de Bron est lancé. Françoise Fanny de Briand y meurt le 16 décembre 1876, à l'âge de 42 ans. L'acte de décès de l'asile de Bron précise qu'elle est surnommée Fanny. La cause de sa mort est une attaque d'éclampsie. Cela implique qu'elle est alors enceinte. En effet, l'éclampsie est une crise convulsive généralisée, comparable à une crise d'épilepsie, provoquée par une malformation des vaisseaux sanguins du placenta, qui perturbe trop fortement la tension artérielle et induit une hypertension artérielle intracrânienne chez la génitrice. Elle peut causer sa mort et celle du fœtus. Son lieu d'inhumation est encore inconnu. L'asile de Bron n'a pas de cimetière propre avant 1880. Est-elle alors enterrée dans un cimetière communal? La seule quasi-certitude est qu'elle est passée par la chambre mortuaire de l'asile de Bron. Visite guidée.
La salle de dépôt, voûtée ainsi que le porche, est garnie à gauche et à droite de 4 étagères en pierre polie, incrustées dans les murs et destinées à supporter pareil nombre de cercueils. 2 de ces étagères sont légèrement creusées en auge, de manière à pouvoir arroser constamment d'eau froide des corps qu'il serait utile de conserver pendant quelques jours. 2 rideaux tendus sous les arcs doubleaux en avant des cercueils peuvent laisser libre la partie centrale qui forme en quelque sorte une petite nef à l'extrémité de laquelle un autel est élevé dans une absidiole. C'est dans cette partie centrale que se disent les prières qui doivent précéder l'inhumation. L'aération de cette salle est assurée par les baies qui s'ouvrent sur ses parois et par une cheminée ventilatrice pratiquée dans la voûte. La salle de dissection, éclairée au nord par une double fenêtre, communique directement avec le dépôt. Elle est garnie de 2 tables, l'une en pierre polie, pivotant sur un pied central, l'autre en chêne, recouverte de zinc. L'eau est distribuée par un robinet, dans cette salle au-dessous de laquelle est aménagé un petit caveau qui permet de conserver un jour ou deux des pièces d'anatomie.
La mascotte Françoise Fanny de Briand est morte dans l'anonymat. Sans imaginer un instant que son geste de montrer ses fesses au bouliste perdant du Clos-Jouve serait à l'origine d'une expression populaire et de la mise en place de véritables rituels dans les jeux de boules. Jusqu'à disparaître complètement en tant que personne réelle, pour n'être plus qu'une imagerie populaire. Si son crétinisme et son goitre sont sans doute une des raisons pour lesquelles les boulistes se moquent d'elle, Fanny n'est pas que cela. Elle traîne autour du boulodrome, regarde les parties. Ont-ils été attendris par cette fenote qu'ils trouvent simplette et moche? Discutent-ils avec elle? Vient-elle seule ou son père est-il un bouliste pratiquant? La tradition bouliste perpétue une histoire du Clos-Jouve où les joueurs ne sont pas méchants avec elle et témoignent même en sa faveur en 1868, lors de son arrestation. Un peu comme si leur choix de Fanny pour leur rituel était une Macédoine étrange de dégoût et de sympathie.
J'aimerais vous entretenir d'un sujet qui tient particulièrement à cœur.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Qu'est-ce que vous racontez là?
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Êtes-vous donc tombé si bas que ça?
Oui.
Où ça?
Sur les fesses.
Je sais pas si vous avez remarqué, on dirait que depuis quelques années, tous dont l'entend parler, c'est...
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Il y en a des rondes, il y en a des plates, il y en a des fermes, il y en a des flasques.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Il y en a des grosses, des petites carrées, il y en a pour s'asseoir, d'autres pour s'amuser.
Les fesses, les fesses, les fesses, les fesses.
Il y en a des basses, des déprimés, et il y en a de la haute société.
Les fesses, les fesses, les fesses.
Il y en a des belles à regarder, il y en a qui sont à éviter, mais pour les aimes, pour les aimes, pas si on avait pas, on serait pas là.
Les fesses, les fesses, les fesses.
Bon, ben voilà une chose de régler, hein. Si on ne parle pas des fesses au moins une fois par jour, il n'y a rien à tirer ces gars-là. Allez, passons à un autre sujet.
Réalité. Rétablir la réelle histoire de Françoise Fanny de Briand ne dit rien sur le rituel bouliste qui l'entoure et son évolution. Quels sont les liens entre le gage qui consiste à regarder les fesses, peu ragoûtantes selon les boulistes, de Fanny, et le fait d'embrasser une représentation de fesses? De quand datent les premières utilisations de l'expression? Dans son article consacré aux boules, écrit en 1873, Claire Tisseur, le revoilà, consacre un chapitre au lexique propre aux boulistes. Il affirme que lorsqu'une personne ne fait aucun point, elle doit, ouvrez les guillemets, baiser le cul de la vieille. Mais sa description ne vaut que pour son environnement proche, car comme il le dit lui-même, il ne connaît pas ce qui se pratique dans les autres quartiers lyonnais. Si l'expression est peut-être déjà utilisée à la Croix-Rousse, elle peut ne pas avoir encore franchi les frontières des arrondissements lyonnais. Il ajoute aussi que dans le beau monde, on se contente de la plaisanterie en parole, alors qu'ailleurs, d'autres le font en acte, avec un tableau représentant en profil une horrible vieille avec trois poils sur le nez. Cette expression de « baiser le cul de la vieille » n'est pas typique de la région lyonnaise, mais elle est présente dans plusieurs autres régions françaises, avec ce même sens de « perdre ». Elle est antérieure à celle sur Fanny. Il est probable que les premiers boulistes du Clos-Jouve l'aient adapté à leur propre boulodrome et son environnement. Leur vieille symbolique et ses fesses sont remplacées par celles de Françoise Fanny de Briand. Il ne faut plus les embrasser, mais les regarder. Ce n'est pas l'acte de Fanny de montrer ses fesses au perdant contre une pièce de monnaie qui crée le rituel, mais le rituel symbolique préexiste et elle ne fait que l'incarner en chair et en os pour les boulistes de la Croix-Rousse. Dans leur esprit, embrasser une représentation de fesses d'une hominine femelle âgée et laide est un gage équivalent à celui de regarder celle, bien réelle, de la goitreuse et simplette qu'est Fanny.
L'imagerie liée à la Fanny croix-roussienne s'est éloignée de la dimension supposément repoussante de son boule pour mettre en avant des postérieurs aux formes jugées attirantes. Avec le cérémonial de la Fanny, il ne s'agit plus de regarder le cul d'une goitreuse ou d'embrasser celui d'une vieille, mais de s'agenouiller devant celui d'une hominine femelle aguichante. Embrasser ou baiser le cul de la vieille n'est pas propre au jeu de boules. Cette expression se retrouve en 1718, où elle est une manière de parler usitée à Paris, qui se dit ordinairement au jeu de billard et autres, et signifie ne pas faire un seul point, perdre sans avoir pu gagner ni prendre un point. L'auteur de ces lignes ne précise pas quels sont les autres jeux. En 1640, Curiosité Françoise pour supplément au dictionnaire rapporte que gagner un jeu sans que l'adversaire ne fasse un seul point se dit faire chevaucher la vieille. Par ailleurs, l'idée d'embrasser les fesses se retrouve aussi dans des variantes locales du piquet, un jeu de cartes datant du XVIe siècle. Une description de 1878 précise que, autrefois, celui qui ne comptait que 27 points avait la faculté de faire pique s'il consentait à baiser le derrière de son adversaire. Cette allusion dans cet ancien jeu de cartes pourrait être une des explications à l'existence de l'expression « être Fanny » dans des jeux de cartes plus contemporains comme la belote ou la coinche. Une mystérieuse transmission entre boules et cartes dont on n'est pas sûr de l'origine mais qu'on a envie d'imaginer comme une après-midi de jeu de boules qui, quand le jour tombe, glisse vers une bonne soirée carte. Depuis des siècles, dans des domaines très éloignés des jeux, montrer ses fesses est un geste de défiance vis-à-vis de celles vers qui elles sont exhibées. L'histoire de Zominine est ponctuée de tels actes. À Nice, par exemple, Catherine Ségurane se rend célèbre en 1543 pour avoir défié la coalition militaire franco-ottomane qui assiège la ville en offrant en spectacle son postérieur et en exhortant la foule niçoise à résister. Dans Le quart livre des faits et dictes héroïques du bon Pantagruel, édité par Rabelais en 1552, la vieille de Papefigue parvient ainsi à faire fuir le diable. Par contre, tendre ses fesses pour qu'elles soient embrassées équivaut plutôt à une proposition de soumission de celles qui doivent y poser leurs lèvres. Ce cérémonial se rapproche de l'expression « embrasser le cul de la vieille ». Cette façon d'humilier et de marquer la soumission semble ancienne. Parfois considérée à l'origine de l'expression, la première allusion répertoriée est celle contenue dans le roman anonyme Odigier, écrit à la fin du XIIe siècle ou au début du XIIIe. Dans cette parodie de chansons de geste où les références au caca et aux fesses sont nombreuses, Odigier est en conflit avec la vieille Grimberge de Valgriffier. Après une première défaite, elle lui propose d'embrasser ses fesses en guise de soumission ou de mourir. Humilié mais vivant, Odigier décide de se venger. Il repart au combat mais échoue de nouveau. La défaite est totale. Grimberge de Valgriffier lui propose alors une nouvelle embrassade.
Deux fois, elle lui fit baiser son cul, sans d'abord se torcher, et Odigier y collait ses lèvres. « Odigier, dit Grimberge, mon cul est net. Grimberge est découverte jusqu'au nombril, elle s'assoit sur Odigier, qui y consent, elle lui pose le cul sur la face. »
La présence au Québec de l'expression « embrasser le cul de la vieille », avec le sens de perdre ou de rentrer bredouille de la chasse ou de la pêche, par exemple, est sans aucun doute un héritage du français de France. Les raisons de l'utilisation de Fanny pour dire popotin dans l'argot de l'anglais états-unien ne sont pas établies. Dans un entretien après la sortie aux États-Unis d'Amérique du film Fanny, Marcel Pagnol raconte que le journal Herald Tribune plaisante sur le fait que ce titre est une rare occasion de mettre ce mot à la une du journal. Il explique aussi que les soldats états-uniens découvrent la pétanque lors de la première guerre dite mondiale. Inventé quelques années plus tôt, ce nouveau jeu sportif est alors en plein essor. Les soldats utilisent déjà Fanny pour désigner le sexe des hominines femelles et découvrent la Fanny bouliste, réduite à une simple paire de fesses encadrées. Aussi grivois et plein de finesse que leur homologue en civil, il y a fort à parier que les militaires se soient emballés pour ce rituel et beaucoup amusés d'une telle proximité linguistique. Selon Marcel Pagnol, la guerre terminée, les militaires repartent avec un nouveau sens pour le mot Fanny, un glissement. Un peu comme en français où une relation sexuelle est une histoire de cul. La plus ancienne mention de Fanny dans le sens de fesses ou popotin est, selon le Green's Dictionary of Slang, datée de 1919. Elle apparaît dans la description d'une scène au sein d'un régiment états-unien où une personne inflige des coups de sangle sur les fesses d'une autre en tournant autour de lui dans un jeu appelé « Bad the Fanny ».
Tous les jours, on se retrouve ici avec les gars pour jouer aux boules. On ne peut pas rigoler avec notre matériel, on doit vraiment en prendre soin, c'est vital. Alors, quand elles ne sont pas de sortie, je les garde bien au chaud à la maison. C'est essentiel de les inspecter fréquemment pour être sûr qu'elles soient bien au top. Bon, il y a des gars qui jouent avec des boules de taille différente, ça c'est pas grave. Le plus important, c'est surtout qu'il n'y ait rien qui cloche et qu'on ne sente pas de gêne quand on les a en main. Parce que le moindre petit pépin, et ça peut être le drame.
Faites gaffe à vos boules, les gars, ça serait vraiment couillon.
Le cancer testiculaire n'est pas un jeu. Pensez à inspecter régulièrement votre matériel. Pour effectuer un bilan testiculaire, vous devez simplement prendre rendez-vous chez votre médecin traitant qui saura vous montrer les gestes à connaître pour surveiller efficacement votre matériel.
Après cela, que l'on en pense, que l'on en juge, que l'on en dise, que l'on en fasse tout ce que l'on voudra dans le monde, je ne m'en embarrasse guère. Que les hommes s'accommodent et qu'ils se gouvernent comme ils veulent, qu'ils soient sages ou qu'ils soient fous, qu'ils soient bons ou qu'ils soient méchants, qu'ils disent ou qu'ils fassent même de moi tout ce qu'ils voudront après ma mort, je m'en soucie fort peu. Je ne prends déjà presque plus part à ce qui se fait dans le monde. Les morts avec lesquels je suis sur le point d'aller ne s'embarrasse plus de rien. Il ne se mêle plus de rien et ne se soucie plus de rien. Je finirai donc ceci par le rien. Aussi ne suis-je guère plus qu'un rien. Et bientôt, je ne serai rien.